Bonjour et bienvenue dans Back Channel, le podcast consacré aux coulisses de la politique internationale. Phoenix, vous êtes romancier, spécialiste du renseignement, et vous commentez l'actualité stratégique sur l'Ukraine, la Russie, le Proche-Orient et l'Asie. Pour ce 23e épisode, je voudrais revenir sur votre expression « l'axe Yarvin-Dugin », c'est-à-dire la convergence des idéologies d'extrême droite entre États-Unis et Russie.
Bonjour Laura.
Bonjour Phoenix. D'abord, pouvez-vous nous faire un rappel des derniers développements sur le conflit Ukraine-Russie ?
Bien sûr. En matière de diplomatie avec Trump, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. On pourrait appeler ça la diplomatie du zigzag ou encore celle du théâtre de boulevard.
C'est-à-dire ?
Vous savez, dans le théâtre de boulevard, le personnage principal est sur scène, les portes s'ouvrent et se ferment, et à chaque fois, il y a un nouveau personnage qui entre, qu'on n'attendait pas, et qui crée une situation nouvelle que l'on n'attendait pas non plus. Le personnage principal change d'opinion à chaque nouvelle rencontre, chaque nouveau dialogue, ça devient étourdissant, et on a du mal à suivre, mais tout le monde rit parce que c'est ridicule. Eh bien, Trump, c'est pareil. Le 11 et le 12 octobre, Zelensky a deux appels avec Trump. Rappelons-nous que Trump avait déjà changé d'avis fin septembre lors de son discours à l'ONU, quand il était à la tribune de l'ONU où il avait parlé que de l'Ukraine et que l'Ukraine pouvait finalement remporter la victoire, etc. Donc, évidemment, Zelensky le prend au mot. Ils ont deux appels, comme je le disais. Et à l'issue de ces deux appels, le président américain annonce qu'il va rencontrer Volodymyr Zelensky le 17 octobre. Et ils vont parler de livraison de missiles Tomahawk à l'Ukraine. Évidemment, des missiles Tomahawk, c'est des missiles à longue portée qui peuvent permettre en fait d'augmenter la capacité de frappe de l'Ukraine sur la Russie, ce qui évidemment mettrait beaucoup plus de pression sur la Russie dans le cadre du conflit. Donc, le 16, Zelensky prend tranquillement son avion pour aller prendre livraison de ces Tomahawk. Mais il y a une chose qu'il ignore, c'est que le même jour, Vladimir Poutine, qui sent évidemment la température monter, décide d'appeler Trump. L'appel dure 2 heures, et comme d'habitude, le président russe va le flatter, le cajoler, l'impressionner, évoquer l'incroyable potentiel des relations commerciales entre les deux pays, etc. À la suite de l'appel, Trump annonce un nouveau sommet avec Poutine, cette fois-ci à Budapest, sous l'égide de Viktor Orban, pour la semaine qui suit. Alors là, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, dans les chancelleries européennes, ça commence à paniquer à nouveau. Et puis, souvenons-vous hein, que, évidemment, Trump, lui, il est convaincu qu'il est le plus grand négociateur de tous les temps. Bilan. Le lendemain, le 17 octobre, Trump va rencontrer Zelensky à Washington, et quelques jours plus tard, des éléments de la conversation filtrent, puisque d'après le Financial Times, qui est bien renseigné, la rencontre s'est une nouvelle fois mal passée, comme de toute façon, comme à chaque fois que Zelensky est seul avec Trump, et au lieu de recevoir des Tomahawks, Zelensky a reçu des sermons. Le ton est monté, Trump a essayé de le convaincre que c'était tout à fait OK de laisser et d'abandonner 20% de son territoire, et que de toute façon, il devait le faire, sinon il serait pulvérisé, perdrait la guerre, etc.
Pourquoi ?
Trump pensait déjà aux préparatifs de son sommet de Budapest de la semaine prochaine. Donc, ce qu'il voulait, c'était rencontrer Poutine, muni de concessions de Zelensky. Mais encore une fois, Poutine a surjoué sa main. Et quand les Américains se sont rendus compte, dans les jours entre le 16 octobre, la date de l'appel entre Poutine et Trump, et, qui sait, vers le 23 ou le 24, qui était la date n'a jamais été vraiment fixée exactement, mais c'était à peu près cette semaine-là où Trump envisageait de rencontrer Poutine, comme je l'ai dit, à Budapest, les négociateurs américains qui parlaient avec leur contrepartie russe ont dû, cette fois-ci, un chat échaudé craint l'eau froide, ils n'avaient pas envie de répéter l'échec du sommet en Alaska. Donc ils se sont rendus compte que les Russes, encore une fois, ne lâcheraient absolument rien, parce que de toute façon, les Russes, en matière de négociation, ils ne lâchent jamais rien, ça fait 3 siècles ou 4 que ça dure. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dû en parler à leur chef, Donald Trump, qui s'est sûrement fâché et du coup a décidé d'annuler le sommet de Budapest et un jour ou deux plus tard d'imposer enfin des sanctions pétrolières nouvelles à la Russie.
C'est étonnant.
Ça fait 2 fois, 3 fois, 4 fois que Poutine a l'opportunité d'obtenir de Trump des concessions qui mettraient l'Europe en porte-à-faux avec les États-Unis et ainsi continuerait de creuser le fossé entre les deux côtés de l'Atlantique. Mais à chaque fois, Poutine a manqué sa chance. Les Occidentaux aiment à dire que Vladimir Poutine est un grand négociateur et un grand stratège, bah, mon opinion, c'est absolument pas. Il envahit l'Ukraine, un des plus grands échecs militaires de l'histoire russe, ça c'est pour le stratège, et il ne parvient pas à faire un deal avec Trump, qui pourtant rêve d'en faire un avec lui, ça c'est pour le négociateur.
Pour revenir sur le fossé entre États-Unis et Europe, la dernière fois, vous nous aviez parlé de la confluence des droites américaines et russes qui risque d'isoler l'Europe encore davantage.
Oui, tout à fait, je parlais de l'axe Yervin-Dugin. Et en fait, pour revenir un petit peu en arrière, sans faire un exposé sur la droite américaine actuelle, parce que ça prendrait beaucoup plus de temps, d'abord, l'administration en place, c'est évidemment ce qu'on appelle la droite MAGA, hein. Donc Make America Great Again. C'est des gens comme Jim Jordan, Matt Gaetz, Marjorie Taylor Greene, qui la plupart sont des représentants d'ailleurs, donc des députés. Et ces gens sont finalement des populistes classiques. La différence, c'est que c'est juste des gens qui sont nés avec les médias. Donc c'est des adeptes à créer des soundbites et à passer à la télé. Vous avez évidemment aussi Steve Bannon,
l'architecte de la victoire de Trump en 2016.
Oui, c'est ça. Il y en a eu pas mal, les architectes, mais c'est probablement une des personnes les plus influentes, qui lui aussi est un expert des médias. Il s'est fâché avec Trump, puis réconcilié. Donc, Steve Bannon pourrait un peu plus prétendre au rôle de penseur ou d'intellectuel, au sens classique du mot, mais toutefois, ça n'en est pas vraiment un. En fait, il faut aussi prendre un peu de recul et regarder la situation aux États-Unis. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, le vrai pouvoir, depuis une quarantaine d'années, il est sur la côte ouest. Tout, les modes, l'innovation, Hollywood, la révolution du software, la révolution Internet, la révolution des réseaux, et la technologie en général, qui est donc le moteur de l'économie américaine, on va dire à partir des années 80, encore plus dans les années 90, et certainement depuis les années 2000, tout ça, ça vient avant tout de la côte ouest, donc de la Californie et du Nord-Ouest, c'est-à-dire l'Oregon et le Washington. Il y a 20 ans, personne n'aurait imaginé que les plus grosses sociétés du monde en termes de capitalisation boursière, les milliardaires les plus riches de la planète, seraient presque tous sur la côte ouest et surtout seraient dans la technologie. Or, la Silicon Valley, qui était avant tout à gauche avec des relents libertariens, ne l'est plus autant. Si la Valley continue à voter démocrate par une majorité écrasante, les vrais puissants de la côte ouest, des gens, et il y en a beaucoup, hein, mais des gens comme Jeff Bezos ou Musk ou Thiel ou Larry Ellison, Mark Zuckerberg, ils se sont tous ralliés à Trump. Certains, comme Bezos et Zuckerberg, pour protéger leurs intérêts d'entreprises et financiers. D'autres, comme Ellison, Musk ou Thiel, parce qu'ils y croient. Et c'est là qu'étudier Curtis Yervin est intéressant.
Dans un article récent dans Slate, pour qualifier la pensée de Curtis Yervin, vous parliez de technofuturisme fasciste. Qui est Yervin ?
Alors, Yervin, c'est quelqu'un qui vient de New York, hein, dont la famille, c'était des communistes new-yorkais, et ce qui évidemment est un paradoxe pour quelqu'un qui se réclame de l'extrême droite, c'est en fait un programmeur isolé à San Francisco qui a essayé de monter des sociétés sans grand succès. Il a été d'ailleurs soutenu par un investisseur qui s'appelle Peter Thiel, dont je parlerai tout à l'heure. Et en fait, en 2008... Yervin, sous le pseudonyme de Mencius Moldbug, qui est un nom un peu bizarre, je suis d'accord, lance un blog et, assez rapidement, d'une façon sérialisée, il essaie d'exposer ses idées dans un essai intitulé « Lettre ouverte aux progressistes ouverts d'esprit ». Alors, en résumé, ce qu'il propose, c'est la liquidation de la démocratie, de la constitution et de l'ordre social. La démocratie fondée sur le précepte caduc d'égalitarisme, caduc selon lui, ne fonctionne plus, car la masse n'est pas capable de comprendre les problèmes technologiques, sociaux ou économiques qui submergent le monde. Donc, confier au peuple la responsabilité d'élire des gouvernants conduit au chaos et à l'instabilité. Si le système qu'il appelle la cathédrale, c'est-à-dire le pouvoir médiatique, selon lui, et selon la droite d'ailleurs aux États-Unis, est à 95% à gauche, le monde universitaire, etc. Si ce système, la cathédrale, offre l'illusion de stabilité, c'est qu'il s'appuie sur des élites non élues principalement, comme je le disais, les médias et les universités, ainsi que sur la bureaucratie, qui, elle, est toute puissante. Et tout ça, ça entretient un modèle dédié à la destruction de toutes les valeurs traditionnelles, que ce soit le patriotisme, la nation, la prospérité, la famille, mais aussi la masculinité et la religion, etc. À l'origine de ce renversement des valeurs conservatrices, un coupable, selon Yarvin, la démocratie libérale.
Et le Dark Enlightenment ?
Alors, c'est un philosophe britannique très peu connu qui s'appelle Nick Land qui a inventé cette expression. Évidemment, par Dark Enlightenment, c'est un contrepoint aux Lumières, donc au siècle des Lumières, d'où sortira la démocratie libérale à partir du XVIIIe siècle. Et cette démocratie libérale, responsable, selon évidemment Yarvin, mais aussi Land et tous les adeptes du Dark Enlightenment, qui est en fait responsable de tous les maux de la civilisation occidentale. Dark Enlightenment, on appelle ça aussi NRX, pour Neo-Reactionary Movement, et donc courant idéologique né dans la Silicon Valley, qui voit dans les valeurs de tolérance, de diversité, d'égalitarisme, d'acceptation de l'altérité, une menace existentielle. Il faut donc la détruire, et c'est ça que propose Yarvin. Pour cela, Yarvin propose un manuel de renversement des institutions américaines qui donnerait naissance à un monde ultra-capitaliste et techno-futuriste où une sorte de roi CEO gérerait les États-Unis comme une entreprise ultra-profitable et ultra-armée. Tout le reste, université, administration, fonction publique, protection sociale, tout ça, ça doit être soldé. L'immigration de masse doit être stoppée, les populations inutiles, c'est-à-dire les pauvres, les sans-abri, les drogués, emprisonnés ou neutralisés. Dans un second temps, Yarvin imagine un futur utopiste où la notion d'État-nation disparaîtrait afin de laisser place à une mosaïque de cité-État, auto-administrée, dirigée par des autocrates. C'est en fait une sorte de vision romantique d'un féodalisme médiéval revu et corrigé par la science-fiction. Parce que, rappelons-nous, c'est la côte ouest, c'est la Silicon Valley. Et pas loin de la Silicon Valley, il y a Hollywood. Il envisage aussi un futur laissé aux mains d'une élite suprêmement intelligente. Quand vous voyez certains des propos des grands patrons de la Silicon Valley, on peut voir évidemment quelques parallèles. Donc une élite suprêmement intelligente qui, libérée des carcans de la bureaucratie, des médias, de l'égalitarisme, etc., toutes ces valeurs dépassées, selon Yarvin, projetterait l'humanité vers l'avant. Et tout cela en l'enrobant d'une sorte d'emballage, parce qu'on est quand même à l'ère du marketing, de science-fiction, un peu cyberpunk, un peu utopie, mais surtout de transgression. Et là, il est très fort, Yarvin. C'est cette transgression, de plus en plus remise en question, je pense, par une certaine gauche progressiste, qui a rendu l'idéologie NRX cool auprès d'une jeune génération d'élites urbaines, hostile à la propagation du discours woke Black Lives Matter ou transgenre.
Et Peter Thiel ?
Alors Thiel connaît bien Yarvin, d'où le lien. C'est un des principaux investisseurs de la Silicon Valley. Il connaît Musk depuis l'époque de PayPal, puisque rappelons-nous que Musk a d'abord commencé avec PayPal. Il est derrière Meta, Palantir. C'est un milliardaire devenu proche de Trump. Il est connu pour ses opinions controversées. Il a notamment déclaré « Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles », ce qui est quand même tout à fait clair. On lui prête des liens avec un peu tout le monde, dont Yarvin, comme je le disais. Thiel a beaucoup d'argent. Il y a même un surnom pour l'argent déversé par Thiel sur les causes qu'il soutient, qu'on appelle les « Thiel Bucks », donc les dollars Thiel. Il a aussi un immense réseau, que ce soit sur la côte ouest ou à Washington, qu'on appelle le Thielverse. Et un tout petit exemple, en 2022, c'est Thiel qui avait financé la campagne de J.D. Vance au Sénat avec un don de 15 millions de dollars, ce qui était une somme colossale à l'époque. Deux ans plus tard, le sénateur de l'Ohio, J.D. Vance, devenait vice-président, ce qui évidemment est une des ascensions politiques de la politique américaine les plus météoritiques qu'on ait connues.
Récemment, il a fait parler de lui ?
Peter Thiel, oui, en effet. Donc le Washington Post récemment a récupéré des enregistrements de conférences privées que Thiel aurait a donné à San Francisco il y a un mois. C'est assez étonnant quand on les écoute. Hein. D'abord, un peu de contexte. Les droits de douane de Trump, ça a eu un impact économique étonnant sur l'économie américaine, en termes négatifs. Hein. Donc, cette décision, qui s'est révélée extrêmement malheureuse, puisque on sait quel est le projet de Trump, à reconstruire l'industrie américaine en bloquant les produits d'importation, ou en tout cas limitant la facilité d'exporter aux États-Unis. Si vous combinez ça au ralentissement mondial, à l'instabilité politique extrême, et évidemment à l'instabilité géopolitique extrême aussi, ça devrait contribuer à un ralentissement majeur de l'économie américaine. Or, c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire qu'il existe ce ralentissement, mais il n'est pas aussi majeur qu'il devrait l'être. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en ce moment, on a une injection d'investissement en intelligence artificielle qui est complètement ahurissante. C'est-à-dire que c'est des centaines et des centaines de milliards de dollars qui sont investis par les grandes entreprises de technologie aux États-Unis. Là, il y a une nouvelle ruée vers l'or sur la côte ouest, avec des ingénieurs qui sont payés comme des stars de la NBA. Et en fait, pourquoi je dis ça ? C'est que l'obsession des patrons de la vallée, qui soient vraiment de droite comme Thiel ou Musk, ou en fait un peu de gauche comme Bezos et Zuckerberg, mais qui font semblant d'être droite de façon à plaire à Trump, leur obsession, c'est d'empêcher le Congrès ou la Maison-Blanche de réguler l'intelligence artificielle. En gros, ils veulent qu'on leur donne les coups des franges. Donc dans ces conférences, Thiel tient un discours qui offre un certain parallèle avec certaines des idées de Yarvin. Il parle de ceux qui veulent arrêter l'innovation technologique, et d'ailleurs le Congrès veut juste réglementer, mais pour Thiel, ça s'apparente à du ludisme. Il parle de ces gens comme des légionnaires, je cite, hein, les légionnaires de l'Antéchrist. Donc ça va assez loin. En fait, Thiel combine une vision libertarienne, qui est son background, avec une sorte de mystique chrétienne. Et il voit dans l'harmonisation des règles fiscales, réglementaires, etc., internationales, l'émergence d'un gouvernement mondial qui, évidemment, selon lui, conduirait le monde à sa perte.
Et J.D. Vance ?
Alors, vous voyez bien le cheminement auquel on arrive de Yarvin, de Thiel et ensuite à Vance. En revanche, il ne faut surtout pas non plus trop simplifier. Ces trois individus, d'un certain côté, ils n'ont rien en commun. Ils sont extrêmement différents. Leur seul point commun, c'est que ce sont trois intellectuels et qu'ils pensent que le progressisme de gauche est la source de toutes les calamités. Le premier, Yarvin, c'est une sorte, finalement, c'est une sorte d'influenceur. Idéologique. Le second, Thiel, a beaucoup d'argent, 27 milliards de dollars, bon, évidemment pas autant que Musk, et il a un réseau extraordinaire. Le troisième, J.D. Vance, évidemment, vice-président des États-Unis, a le pouvoir politique. Vance et Thiel se connaissent bien, hein. On se rappelle que c'est Thiel qui a financé la première campagne sénatoriale de Vance, et Thiel connaît pas mal Yarvin. C'est pas très clair à quel point ils se connaissent et se fréquentent, mais c'est sûr qu'ils se connaissent. C'est d'ailleurs là où l'on voit, pour revenir à votre introduction, que Dugin, Alexandre Dugin, donc l'idéologue russe dont je parlais la dernière fois, et Yarvin ou Thiel n'ont finalement rien en commun. Les Américains sont obsédés par la destruction de l'État, tandis que l'idéologue russe, lui, il voit dans l'État une sorte de pouvoir messianique, un peu comme la majorité des Français d'ailleurs. Toutefois, ce qui les unit, Yarvin et Dugin, d'où mon expression d'axe, c'est leur abhorration de ce qu'ils considèrent être les excès de la démocratie libérale.